C'est l'heure du journal avec vous. Bonjour Soizigbourg.
Bonjour Eric, bonjour à tous. 10 personnes en garde à vue et 2 profils particulièrement scrutés par les enquêteurs. On fait le point sur l'enquête après l'assassinat du professeur Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Un attentat qui a choqué le monde enseignant. Des rassemblements organisés dans plusieurs villes de France aujourd'hui. On va y revenir. Dernier verre, Éoli, le couvre-feu dans 9 grandes métropoles dont Paris a été globalement bien respecté. Hier soir, reportage à suivre. Dans ce journal aussi, la situation très tendue au Nagorno-Karabakh. Et puis, il en avait disparu depuis plus d'un siècle. Le bouquetin fait son grand retour dans les Pyrénées ariégeoises.
Les invités à 8h20, on évoquera la parole musulmane ce matin. 2 invités, Khaleb Bencher, il est président de la Fondation de l'Islam de France. Invité à 8h30 également, Tarek Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux.
France Inter. 2 jours après la mort de Samuel Paty, ce professeur de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, décapité près de son collège vendredi après-midi, l'enquête avance vite. 10 personnes sont désormais placées en garde à vue, des proches de l'assaillant qui a 18 ans. Et parmi eux, 2 hommes qui intéressent particulièrement les enquêteurs. Un parent d'élève, auteur de 2 vidéos dénonçant les méthodes pédagogiques de l'enseignant après son cours sur la liberté d'expression, dans lequel il a montré 2 caricatures de Mahomet. Et Abdelhakim Sefrioui, une figure de l'islam radical. Qui est-il, Delphine Gocho?
Quel rôle Abdelhakim Sefrioui a-t-il joué dans le contexte qui a préfiguré l'attentat? Cette vieille connaissance de l'antiterrorisme a visiblement soufflé sur les braises de la polémique naissante. Non seulement il a assisté à l'entrevue entre le père d'élève et la principale, mais on l'entend sur une vidéo du parent déclarer qu'Emmanuel Macron a attisé la haine contre les musulmans. Sur une autre vidéo tournée il y a 10 jours, où il est cette fois à l'image, avec des mots choisis pour rester dans les limites de la loi, il critique le professeur d'histoire.
Ça fait 5-6 ans que des enfants de 12-13 ans, des musulmans, sont choqués, sont agressés, sont humiliés devant leurs camarades parce que c'est ce qu'ils nous ont dit, ceux avec qui on a parlé. Donc on a dit qu'on exigeait la suspension immédiate de ce voyou parce que c'était pas un enseignant. Un enseignant, c'est autre chose.
Depuis une quinzaine d'années, ce franco-marocain est dans les radars des services de renseignement, prédicateur antisémite, appelant à des actions violentes contre l'islam de France. Avec son collectif Cheikh Yassine, fondé en 2004, il s'en est pris violemment à Dalil Boubaker, l'imam de la Grande Mosquée de Paris, et à Hassan Chalgoumi, l'imam de Drancy. L'épouse d'Abdelhakim Sefrioui fait également partie des personnes en garde à vue.
Et Emmanuel Macron a prévu de rassembler un conseil de défense restreint en fin de journée à l'Élysée.
Et les professeurs, eux, se mobilisent.
Mais profession meurtrie, mais profession combative. Les syndicats enseignants, avec le concours de Charlie Hebdo, prévoient un grand rassemblement à 15h, place de la République à Paris, mais aussi dans d'autres grandes villes, Bordeaux, Marseille, Nantes, Lyon, Lille, Strasbourg ou encore Toulouse, pour la liberté et contre la terreur. Déjà hier, plusieurs appels au recueillement ont été très suivis, comme à Chambéry, 500 personnes rassemblées, dont Isabelle, qui tenait à être là.
Moi, je suis professeure d'histoire-géographie. La nouvelle m'a touchée très personnellement dans ma pratique. Donc, il y a une grosse interrogation sur comment on doit faire notre métier et les menaces qui peuvent peser sur nous et comment on peut être soutenu par l'institution. Ça fait très peur et en même temps, on se dit qu'il faut rester optimiste. Et je pense que voilà, le rassemblement aujourd'hui, c'est ça surtout, c'est de dire on est plus nombreux que des gens isolés qui commettent des choses complètement atroces et démentielles. Et je pense que la France, c'est encore un pays où on peut dire les choses et on peut exercer notre métier. Et l'histoire-géographie, comme vous dites, c'est passionnant et c'est toujours un plaisir de l'enseigner. Donc non, je pense pas que l'histoire-géographie soit une matière dangereuse. Il faut surtout pas que ça le devienne.
Et le gouvernement promet des actes concrets pour protéger les enseignants. Une riposte plus ferme, ce sont les mots de Jean Castex. Quand un professeur reçoit des menaces, même insidieuses, nous ne céderons rien. Nous ne renoncerons jamais à ce que nous sommes des citoyens libres et éclairés dans une république laïque et solidaire, une et indivisible, dit le Premier ministre. Alors l'attaque a été condamnée unanimement par la classe politique, mais sous couvert de cette apparente unité nationale, il y a, Laurence Perron, quelques nuances.
Sur la barbarie, sur c'est la République qu'on assassine, politiquement, pas une voix ne manque. Sur l'unité, parmi les adversaires du président de la République, c'est sans doute Jean-Luc Mélenchon qui a eu les mots les plus forts.
On fera ce qu'il faut tout le long pour que cette unité soit possible. Et si c'est le président de la République qui en prend l'initiative, eh ben nous suivrons.
Mais c'est sur le jour d'après que les nuances se font jour. Il y a ceux qui demandent des comptes. Là, le chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau.
La question que je voudrais poser à Jean-Michel Blanquer, est-ce que, puisqu'on savait que depuis plusieurs jours, ce professeur faisait l'objet de menaces sur les réseaux sociaux, je voudrais savoir si la haute hiérarchie de l'éducation nationale l'a protégé.
Du côté du printemps républicain, de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, on considère que les actes n'ont que trop tardé, que la complaisance coupable d'une certaine gauche à l'égard de l'islamisme radical n'a que trop duré.
Bien sûr qu'il y a eu des ambiguïtés avec tous ceux qui ont peur de parler de guerre, d'islam politique, d'islamisme.
Enfin, quelques voix à gauche disent leur inquiétude. La lutte contre le fanatisme ne doit pas verser dans l'islamophobie et de rappeler les mots du président. Il faut faire bloc sans se diviser.
Laurence Perron du service politique de France Inter.
Tout le monde chez soi à 21h. Le couvre-feu est donc entré en vigueur à Paris et dans 8 métropoles hier soir.
Ouais, drôle de samedi soir, hein, des boulevards sans personne, des rues désertes. Un tiers des Français au régime sec, pas de sortie, pas de soirée, pas de fête. Ça vaut pour 8 métropoles et donc toute l'Île-de-France, dont la capitale Paris, Marion Ferrer. Ça fait tout drôle hein, aux habituels fêtards qui cherchent encore leur marque.
Le dernier verre avant la fermeture.
20h30, l'heure où il faut désormais payer l'addition. De quoi surprendre Emmanuel et ses amis, pas encore habitués à devoir finir la soirée si tôt.
C'est dommage de rentrer si vite. Alors, on habite à côté, donc c'est pas très loin, donc on a peut-être le temps de reprendre un dernier petit verre. On n'est pas encore très habitués à ce nouveau format, donc on pensait à mettre en place un rythme à l'anglaise, donc bosser plus tôt et terminer plus tôt.
Un rythme à l'anglaise déjà pris par plusieurs Parisiens. Dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, hier, les bistrots ont été pris d'assaut dès le milieu de l'après-midi. Florent et Johanna voulaient profiter d'une longue soirée entre amis.
On s'est rejoint un peu plus tôt dans les bars, 17h, ouais, je pense. Le but, c'est de profiter voilà, au maximum. Et après, rentrer dans les règles, en revanche.
D'être ensemble et au moins un samedi soir, de marquer un peu le coup, quoi, quand même. Parce qu'on est quand même samedi, c'est comme le week-end. En fait, là, je réalise pas, je pense. Déni de toute cette période, hors norme.
À 21h, le centre de Paris s'est rapidement vidé, tout comme le reste de la ville. Quelques réfractaires ont tenté de manifester à Châtelet et dans le nord de la capitale. Des petits groupes très vite dispersés par les forces de l'ordre. Paris s'est endormi et vers 22h, on ne croisait plus que des livreurs à vélo ou scooter, des travailleurs sur le chemin du retour ou encore des bus et des taxis complètement vides.
Et sur le front des chiffres de la crise sanitaire, 32 000 nouveaux cas positifs ont été détectés en 24 heures, un triste record. Pour anticiper l'afflux de patients, les hôpitaux de la région lyonnaise sont les premiers à commencer à déprogrammer certaines de leurs activités. Seules les urgences sont maintenues à partir de demain et ce, pour les 15 prochains jours. En Auvergne-Rhône-Alpes, 90% des lits de réanimation sont occupés, dont 37% par des malades du Covid-19. Le service après-vente de Jean Castex, le Premier ministre, rectifie le tir sur les primes pour lutter contre la pauvreté en pleine crise sanitaire. L'aide de 150 euros sera bien étendue aux jeunes qui bénéficient des APL et pas uniquement aux personnes qui ont des enfants.
Il est 8h09 sur France Inter. Sois-y qu'on fait un point sur le dernier cessez-le-feu en date au Nagorno-Karabakh.
Oui, une trêve humanitaire mise en place hier. Alors le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a déjà fait des centaines de morts dans cette zone, dans ce territoire du Haut-Karabakh. Claude Bruyot, ce nouveau cessez-le-feu est-il respecté?
La nuit a été calme sur Stepanakert d'après des témoignages sur place, ce qui signifie que le cessez-le-feu à but humanitaire qui a débuté à minuit conserve quelques chances de tenir. L'objectif principal, si la situation se stabilise, notamment sur la ligne de front, sera de permettre a priori de part et d'autre l'échange de prisonniers et le retour réciproque des dépouilles de soldats arméniens et azerbaïdjanais. Il y a une semaine, les représentants de la Croix-Rouge internationale sur place n'avaient pu entamer ne serait-ce que le début du processus. À peine instauré, le cessez-le-feu négocié à Moscou le 10 octobre dernier avait été aussitôt rompu par les deux camps. Cette fois, l'implication de la France et des États-Unis, aux côtés de la Russie, semble donner une meilleure assise à la situation, même s'il est encore trop tôt pour s'assurer que l'arrêt des hostilités, sans doute temporaire, tiendra suffisamment longtemps pour déclencher les opérations humanitaires. Yerevan, Claude Bruyot, France Inter.
En Bolivie, ces jours d'élection présidentielle, un an après la démission d'Evo Morales, l'ancien président qui n'est pas candidat, une première depuis 20 ans, mais son parti, le MAS, le mouvement vers le socialisme, est en tête dans les sondages avec 34% des intentions de vote devant son principal rival, l'ex-chef d'État Carlos Mesa. Aux États-Unis, Donald Trump continue sa campagne tant bien que mal. Le président américain rencontre pas mal d'embûches, comme ces manifestations de femmes qui, outre qu'elles ne veulent plus de lui comme président, dénonçaient aussi sa nomination à la Cour suprême de la juge conservatrice Amy Coney Barrett en remplacement de l'icône progressiste Ruth Bader Ginsburg décédée le 18 septembre dernier.
Une image étonnante à présent, un lâcher de bouquetin.
Et oui, ça s'est passé hier dans les Pyrénées ariégeoises dans le cadre d'un programme de réintroduction financé par l'Union européenne, Stéphane Iglesis.
Sortis un par un, les bouquetins ont aussitôt disparu dans la montagne ariégeoise pour le plus grand plaisir de Julien Canet, qui est chargé du programme de réintroduction de ces bêtes au Parc National des Pyrénées.
C'est une délivrance parce que on l'a bien vu, ça s'est quand même vraiment bien déroulé. L'avantage de les lâcher un par un comme ça, c'est qu'ils se suivent plus ou moins, ils prennent plus ou moins chacun leurs traces et puis ça les rassure aussi entre eux. Petit à petit, l'idée c'est qu'ils montent après et qu'ils fassent un peu, qu'ils rejoignent les autres, mais bon, je m'en fais pas, ça va le faire.
Jean-Louis Fernandez est président de la Fédération des chasseurs de montagne. Le bouquetin qui avait disparu en Ariège en 1910 car trop chassé, revient notamment grâce au travail des chasseurs, un paradoxe.
On compte les naissances, au cours de nos randonnées l'été, au cours de nos balades aux champignons et tout, on voit des bouquetins, on le note, là, on fait une cartographie, on sait géographiquement ce que deviennent les bouquetins. Parce que les bouquetins ont quelquefois un rayon d'action assez important, ils suivent beaucoup les crêtes, on a observé, et donc c'est vrai qu'ils sont souvent dans des parois très rocheuses, où ils se nourrissent de lichens l'hiver, et des fois on est admiratif des endroits où ils passent, on dirait qu'ils ont des crampons quelquefois sous les sabots.
Au lac de l'Hers en Ariège, Stéphane Iglesias, France Inter.